Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Un mot d'abord des syndicats de la SNCF qui lancent un référendum pour ou contre la réforme du gouvernement. S'il en sort une majorité écrasante, hostile à cette réforme, ça peut faire réfléchir le gouvernement ?
Alors, dans le cas de la SNCF, c'est une réforme qui ne concerne pas simplement la SNCF en interne, mais bien tous les Français. Donc les décisions se prennent au Parlement, avec le gouvernement. Bien sûr, les organisations syndicales ont le droit de prendre les initiatives qu'elles veulent, mais de toute façon, la décision, d'ailleurs l'Assemblée nationale s'est déjà prononcée en faveur de cette réforme. Comme ça concerne tous les Français, c'est là, je dirais, que sera le champ de la décision.
Oui, donc l'avis des personnels, imaginons que 80% des personnels consultés refusent cette réforme, en particulier la fameuse suppression du statut. Ça ne vous ébranlera pas. Vous, la ministre du Travail, vous dites, on ne tient pas compte de l'avis des salariés de la SNCF.
Ça veut dire que, enfin, d'abord j'imagine aucun chiffre, et oui. Certainement pas celui-là, mais je pense que ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de travail d'explication à faire. Parce que s'il y avait un résultat très négatif, ça voudrait dire qu'une grande partie des salariés de la SNCF ne comprennent pas encore que ça va sauver la SNCF, ça va sauver le service public national ferroviaire.
Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris.
Ça veut dire qu'on a encore du travail d'explication, de dialogue, de discussion à faire.
Donc vous êtes mal expliqué, soit ils n'ont pas compris.
Je crois qu'il faut savoir à chaque fois dans quel champ démocratique on est. Encore une fois, c'est un sujet qui concerne tous les Français. Le dialogue social interne est très important, mais ce n'est pas le lieu où se décide tout.
Oui, mais vous, par exemple, vous êtes attaché au référendum d'entreprise. Il y a même une disposition qui prévoit le recours au référendum d'entreprise.
Je ne vais pas dans un petit débat juridique, mais on n'est pas tout à fait dans ce cas-là.
Pas tout à fait. Non, mais sur le principe même de savoir comment bat le cœur des salariés d'une entreprise et pas n'importe laquelle.
Oui, mais c'est, comme je l'ai dit, la liberté syndicale de consulter ce qu'ils veulent, mais ça se décide
c'est la réforme des
définitivement
Français.
Pour les Français.
Ça n'est pas la réforme des cheminots.
C'est une réforme qui, à mon avis, est très bonne pour les cheminots, parce que c'est leur avenir qui est en cause, c'est les cheminots de demain. Et si la SNCF continue à plonger dans une situation difficile, ça serait très grave pour les cheminots. Donc c'est l'intérêt aussi des cheminots d'avoir une SNCF grande, forte, efficace demain. Et c'est l'intérêt des Français.
Une question qui est un peu liée à ce dont on parle dans le fond. Vous êtes ministre du Travail, c'est un poste où on élabore, où on met en œuvre la politique sociale du gouvernement. Au bilan des un an de la présidence Macron, s'il y a une chose qui lui est reprochée, qu'il ne parvient pas à incarner, en tout cas dans la perception qu'en ont les Français, c'est précisément une politique sociale. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez raté ?
Je pense qu'il y a une... Vous savez, quand on se fait une idée, on ne regarde que ce qui va dans ce sens-là. Il y a eu énormément de choses faites sur le plan social, sur la protection des plus vulnérables depuis un an. Rien que dans le domaine dont je suis en charge, dans la loi travail, on a augmenté les indemnités légales de licenciement, on a créé le droit au télétravail, on est en train, avec Marlène Schiappa hier, on a annoncé les mesures qu'on mettrait sur l'égalité homme-femme. On a obtenu la négociation de la directive travailleurs détachés, qui protège les travailleurs détachés. Voilà, j'ai toute une liste d'exemples de choses qui ont été faites, plus les allocations pour les personnes handicapées qui ont été augmentées, le minimum vieillesse. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Simplement, il y a un peu un prisme.
Comment vous expliquez alors que l'étiquette, par l'étiquette de président des riches, elle s'est installée? Comment vous l'expliquez malgré ce que vous dites?
Eh bien, je m'explique par le fait que, vous savez, dans l'opinion publique, vous le savez mieux que moi, parce que c'est votre métier, on a besoin d'images. On a besoin d'images, et puis quand on fait une image, on regarde surtout ce qui va dans ce sens-là. Je pense que la vérité réaliste, quand on regarde les faits, c'est qu'il y a un équilibre entre ce qui est libérer l'énergie de tout le monde, c'est faire avancer le pays, construire l'avenir. Par exemple, les ordonnances sur le renforcement du dialogue social ont contribué à ça, mais elles ont contribué aussi à des nouvelles protections.
C'est un malentendu, c'est un problème de communication, c'est un malentendu. Vous savez, souvent, quand les gouvernements, vous le savez comme moi, vous l'entendez, ont du mal à faire adopter, en tout cas en termes de popularité ou d'adhésion à leur politique, ils disent on n'a pas fait assez de pédagogie, on ne s'est pas assez expliqué.
C'est toujours le même argument. Ce que je dis, c'est qu'il y a aussi une question de temps. Et ça, je le comprends, que pour nos concitoyens, Les réformes de fond qui vont apporter beaucoup de choses, par exemple sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, on va créer des droits mais qui n'ont jamais existé, qui vont apporter beaucoup. Ces sujets-là, la réforme va être débattue au Parlement, elle n'est pas encore neuve, donc les gens, ils voient le discours, mais ils ne voient pas encore de résultats.
Mais il n'y a pas de déséquilibre dans la nature même de la politique, c'est ça la question.
Pour moi, il n'y a pas de déséquilibre dans la nature même de la politique.
C'est ça que sentent les Français, on donne aux entreprises, on donne aux plus aisés, et peut-être qu'on ne donne pas encore, mais de fait, on ne donne pas au même niveau.
Oui, enfin, libérer les énergies des entreprises, ça contribue à créer l'emploi. L'emploi s'améliore. Donc, mais je pense qu'on a une question de temps. Et je comprends nos concitoyens qui disent oui, mais nous, on a voté pour un changement, on veut des résultats, on veut des résultats vite. Cette impatience est légitime. Simplement, il y a un certain nombre de sujets qui demandent des réformes de fond, ce qu'on fait. Je crois que là, on nous accorde que le gouvernement fait ce programme qu'avait, sur lequel s'était engagé le président de la République. Mais c'est vrai que c'est cette question du temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut pas ralentir.
À propos, par exemple, le congé parental, qui n'est pas le congé maternité ni paternité, c'est un congé plus long quand on a des enfants. Il y a une directive européenne qui prévoit de rehausser le niveau des indemnités. Aujourd'hui, c'est 396 euros par jour, je crois, maximum. Une directive européenne qui dit, voilà, on le met au niveau des indemnités maladie. Emmanuel Macron répond, non, ça va coûter trop cher. Avouez que là, alors tous les syndicats, toutes les associations disent, mais là c'est une occasion de rêve pour faire une politique sociale.
Alors la directive, il y avait eu des textes qui ont circulé. Le texte qu'a déposé il y a quelques jours la Commission et qui sera examiné par les ministres du Travail européens mi-juin, donc je défendrai la position de la France. La France est pour absolument une directive sur le congé parental. Il n'existe pas dans tous les pays. Après, ce que nous pensons, comme les autres pays, puisque tous les pays quasiment pensent ça, c'est que c'est pas à Bruxelles qu'on doit décider dans le détail comment elle fonctionne pays par pays. Parce qu'il y a des pays qui ont des congés, d'autres qui n'en ont pas. Et après, on va, avec Agnès Buzyn et Marlène Schiappa, on va reprendre ce sujet quand la directive sera, je l'espère, adoptée, parce qu'on pense que c'est une bonne chose pour l'équilibre
du
professionnel
et personnel. Donc vous êtes vous, ministre du Travail en France, favorable à une augmentation qui rende plus attractif le congé parental.
Et ensuite, on va regarder l'ensemble, parce que vous savez qu'on a aussi une mission sur le congé maternité. Il y a des femmes qui n'y ont pas accès. Congé parental, congé paternité, il faut regarder les trois à la fois. Donc, nous agirons sur ce sujet, mais on va regarder l'ensemble du sujet au niveau français.
Quand, juste en un mot, ce serait peut-être...
Ça sera à l'automne quand on aura les résultats des missions.
D'accord. Et on a compris que vous êtes favorable à l'augmentation. Égalité salariale, alors ça, c'est pas conflictuel, Marielle Pénicaud. C'est plutôt... Tout le monde est d'accord sur les objectifs, gouvernement, partenaires sociaux. Le dispositif a été discuté par tout le monde. Il va arriver à l'Assemblée en commission dans 15 jours. La proposition phare, c'est de mettre à disposition des entreprises un logiciel qui déjà calcule les écarts de salaire.
Alors, ce n'est pas la proposition phare, c'est un outil pour la proposition phare. Voilà. En gros, ça fait 45 ans, c'est complètement fou, choquant, 45 ans que la loi n'est pas appliquée, égalité salariale pour les femmes et les hommes.
Déjà,
on
n'en
avait pas ensemble. Donc là, on est d'accord sur le diagnostic, mais c'est massivement pas appliqué. C'est un cas rare d'une loi qui est massivement pas appliqué. C'est pas quelques contrevenants, c'est pas appliqué. Donc il faut des méthodes très résolues. Pour ça, il faut d'abord mesurer, être d'accord sur la mesure. C'est l'idée logicielle.
Ce sera le même logiciel pour toutes les entreprises.
Ça sera, la même base commune.
Flou, ça. Est-ce que les mêmes critères de mesure pour toutes les entreprises?
Il y aura forcément des critères qui seront communs à toutes et peut-être certains en ajouteront. Mais en gros, il y aura un corpus commun, oui, puisqu'il faut qu'on puisse comparer. Et deuxièmement, la mesure phare, c'est
obligatoire ce logiciel.
Oui, obligatoire.
Tout le monde devra se doter.
Toutes les entreprises,
entreprises privées
de plus de 50 salariés, parce qu'en dessous, ça n'a pas beaucoup de sens. Et deuxièmement, surtout, il y aura une obligation de négocier une enveloppe de rattrapage. Quand on va constater qu'à travail et de valeur égale, il y a un différentiel de 15%, de 10%, les entreprises seront obligées d'avoir une enveloppe de rattrapage négociée avec les organisations syndicales et au maximum dans les 3 ans. Donc on donne 3 ans pour se mettre en conformité. Parce que l'expérience a prouvé en 3 ans, on y arrive. Si vous avez un énorme écart, en 1 an, vous n'y arrivez pas. Et ça veut dire que le but, c'est donc 2019, 2020, 2021, qu'à fin 2021, on ait réglé ce problème. Il restera toujours quelques entreprises qui ne l'ont pas fait, mais là, c'est le régime de sanctions qui s'appliquera. Mais le but, c'est de...
Fin 2021, les écarts auront dû être résorbés
pour le
à
travail égal.
Dans toutes les entreprises, à travail égal. Mais oui, c'est votre inversion de la courbe, là, parce que dans 3 ans, il va falloir faire des rattrapages parfois très importants.
Oui, mais attendez, D'abord, un, c'est un sujet
c'est
d'équité. Vous trouvez ça... voilà.
Non,
je sais que vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas me dire... mais comment on peut accepter ? Mais j'en appelle à tous les chefs d'entreprise, toutes les organisations syndicales ou aux citoyens, comment on peut accepter qu'à travail égal, les femmes soient moins payées ? Donc, il y a un moment donné, ce n'est pas un cadeau, c'est juste... comment on peut dire que l'égalité, c'est une des
qui
trois valeurs ?
Qui contrôlera ça ?
Et, alors, l'inspection du travail, donc on va...
Les inspecteurs du travail, mais vous dites, j'en nommerai pas plus. Comment
ah oui, mais on a, c'est une question de priorité. On a un nombre d'inspecteurs du travail supérieur aux normes de l'OIT. Simplement, dans les quatre priorités, il y aura cette égalité salariale homme-femme. Et donc, on aura la capacité à contrôler toutes les entreprises assujetties en trois ans.
Le logiciel sera prêt 1er janvier 2019 ?
Alors, c'est
parce
pas...
que là, il n'est pas... Il
ça
est,
sera
il
un logiciel où ça sera l'utilisation de données statistiques qui existent déjà, c'est ça qu'on est en train de regarder techniquement.
Qu'on pourra aller chercher,
qu'on pourra aller chercher.
Sur votre site, par exemple.
Le plus simple, c'est, le plus pragmatique, le enfin, mieux, c'est.
C'est un vrai défi pour les entreprises.
Oui,
parfois des écarts de salaire, il va falloir les...
Oui, mais vous savez, j'ai vu, moi, l'autre jour, j'étais chez Jessina, une entreprise qui l'a fait, dit, mais finalement, on a des gens plus motivés, plus engagés, plus performants, donc c'est aussi l'intérêt des entreprises.
Vous dites, ça peut être un facteur d'attractivité.
Oui.
Muriel Pénicaud, le 22 mai, dans 15 jours, vous serez dans le bureau du juge qui vous a convoqué au titre de témoins assistés dans l'enquête sur Business France pour favoritisme et recel de favoritisme. Vous redoutez ce rendez-vous ?
Non, j'ai confiance dans la justice. Je suis très sereine sur ce dossier.
En cause, il y a un marché public passé par l'entreprise que vous présidiez à l'époque, sans appel d'offres au bénéfice de l'agence Havas. Une des questions est de savoir si vous étiez au courant de cette procédure.
Alors, depuis un an, il y a deux ans, j'ai déclenché un audit. C'est moi qui l'ai déclenché. Mmh. Et depuis un an, on me pose des questions et je ne répondrai que... qu'au juge.
À la question de savoir si vous étiez au
courant. Non, parce que je ne fais pas les commentaires des phrases de la presse.
Vous avez déjà dit que vous n'étiez pas au courant, puisque c'est votre...
Non, mais
votre
je ne rentre pas dans un dossier de ce type-là, par petites phrases dans les médias.
Et cet événement, il était organisé en l'honneur d'Emmanuel Macron à Las Vegas.
Je connais bien le dossier. Je suis très sereine et j'ai très confiance dans la justice. Donc le reste, on verra après.
Vous ne craignez pas, pour finir, qu'à l'issue de la confrontation, c'est possible, juridiquement, le juge change le statut à tout moment, la procédure.
Alors, quand on entre comme témoin assisté, on ressort comme témoin assisté. Mais de toute façon, j'ai confiance dans la justice, je le redis. Donc, voilà.
Un an que vous êtes au gouvernement, d'un mot, un bilan de votre travail au ministère du Travail, ce sera la conclusion.
C'est un honneur, une fierté, mais voilà, ça a vraiment du sens pour moi d'essayer de faire des choses pour nos concitoyens. En tant que ministre du Travail, je suis très heureuse de porter les réformes qu'on porte, qui je pense sont très porteuses pour nos concitoyens.
Vous serez dans ce studio d'RTL dans un an pour faire le bilan de la deuxième année ?
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui vient de nous dire que concernant l'égalité salariale, on devait d'abord identifier les écarts et négocier dans les trois ans, j'ai bien dit dans les trois ans, le rattrapage. Rendez-vous donc fin 2021. Merci à l'une et à l'autre. L'entretien est à retrouver en vidéo, notamment sur le site rtl.fr.